I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Salut à tous et bienvenue sur Séance Radio pour ce nouvel épisode de Fin de Séance, votre podcast qui débriefe les films à l'affiche avec un verre à la main, le micro dans l'autre et vos avis à chaud en sortie de salle. Nous sommes toujours dans notre QG, le Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris, où nous allons parler aujourd'hui de La Prophétie de l'Horloge et Harry Potter à l'école des sorciers qui ressort au cinéma dans une copie toute neuve à l'occasion de ses presque 20 ans. Donc ce sera une spéciale conte fantastique. Ça va être l'occasion de voir si mes petits camarades autour de moi ont perdu leur âme d'enfant ou pas, n'est-ce pas, Pierre Delors de fanfootage.fr que je salue. Comment vas-tu?
Eh bien, ça va très bien. Et il a...
D'accord, ok, c'est pas grave.
Ça, c'est fait.
C'est pas grave, t'as bien un petit coup.
Non, c'est pas ça, j'ai deux pensées qui se sont entrechoquées dans mon esprit, je suis pas arrivé en Formule 1 seul.
T'as pas l'habitude, c'est ça?
Non, mais... je pense pas beaucoup d'habitude en général.
Il va très bien, je le connais. Hélène Ferry et Julien Munoz sont également des nôtres. Comment ça va, les amis?
Ben, ça va, nous on a qu'une pensée, et encore pour deux, une pensée pour deux, donc ça va.
Et encore.
Et encore. Très bien. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite, on perd pas de temps avec La Prophétie de l'Horloge. Signé Eli Ross, on écoute tout de suite vos avis, on en reparle juste après.
Bon, cette mission c'est quoi?
Ben moi j'ai une âme d'enfant, donc on a un film un peu enfantin, mais en même temps fantastique. J'aime l'univers Harry Potter, ça n'a rien à voir, mais on est dans le même style de film fantastique. Et je trouve que c'est divertissant, que ça fait un petit peu peur, mais pas trop, donc bien pour les enfants aussi.
Oui, c'était bien, c'était distrayant. Après c'est plus un film pour enfants que pour adultes.
Moi, à partir de 8 ans, ça irait franchement, mais accompagné.
On est un peu dans la même dimension que dans les films de Tim Burton, dans le fantastique, tout ça. Ça m'a plu.
C'était un très bon film, ça m'a rappelé un peu les autres films de magie que j'avais déjà vu, Harry Potter et tout, et je retrouve un peu ces éléments là de magie dans ce film. C'est fantastique tout cet univers là, ça m'a beaucoup plu.
Bah, c'était sympa, mais les enfants ils ont eu un peu peur par contre, hein. Oui. Dans la film famille c'était un peu ils ont trouvé ça amusant, il y a un petit moment un petit peu où ils tenaient tous la main, mais sinon ça va.
Moi j'ai pas vraiment vu le temps passer, enfin il dure quoi, à peu près 2 heures, hein, si je me trompe pas, et non ça va, c'est un bon film.
Alors vous l'avez entendu, hein, beaucoup de réactions assez enthousiastes, même dimension que les films de Tim Burton pour Aurélie. Même univers fantastique qu'Harry Potter pour Mélanie. Très bon film pour Wilfried. Mélanie, maman de 3 enfants, qui note quand même quelques moments un peu effrayants. Qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces réactions, les amis? Est-ce que vous êtes plutôt d'accord? Est-ce que vous êtes aussi positif que ces spectateurs ou pas? Ouh là là. Qui veut commencer? Ok. Pierre, Julien. Julien, non, parce qu'on a commencé avec toi la semaine dernière. Donc, allez, tiens.
Allez, je vais commencer.
Ilan, vas-y.
Moi, j'étais plutôt positif sur le film. J'ai bien aimé. Alors, j'étais curieux de voir Eli Ross s'attaquer à un univers pareil, parce que jusqu'ici, il a fait dans le torture porn, dans le Vigilante, dans le film de cannibale, enfin des genres très très controversés par essence.
D'ailleurs, on vous renvoie à notre dernier podcast sur Death Wish et Bruce Willis, qui était réalisé. Donc le dernier film de Eli Ross.
Tout à fait. Et c'était l'instant pub. Et donc j'étais assez curieux de le voir s'attaquer à cet univers, se le réapproprier, voir ce qu'il en a en faire. Et je trouve qu'il s'est plutôt bien démerdé. Alors il s'efface vachement derrière son sujet, mais pourquoi pas? Parce que justement c'est propice à ça. Et voilà, j'ai trouvé le film sympathique. Je trouve qu'il a l'avantage de pas prendre son public pour les imbéciles. Il se met à hauteur d'enfant, tout en racontant quand même en sous-texte des choses assez graves, parce que le film se déroule en 1955 et ça parle quand même des conséquences de la Seconde Guerre mondiale sur les personnages. Ça parle du travail de deuil, donc des sujets.
On suit un orphelin, ouais.
Voilà. Donc des sujets assez sombres, mais traités de manière plus ou moins légère, en tout cas par le prisme de la magie. La magie qui est vue comme une sorte de catharsis à cela. Donc j'ai trouvé ça intéressant et j'ai trouvé ça plutôt bien mené. Je rebondis un peu sur ce qu'avait dit Aurélie tout à l'heure en parlant de Tim Burton. Alors c'est sûr que les emprunts entre guillemets à Tim Burton, en tout cas la volonté de les petits clins d'œil à Tim Burton, on les voit. Mais quand j'ai vu ce film là, moi j'ai plus pensé à ce qu'aurait pu faire Joe Dante il y a 20 ans.
Ah oui.
Mais en moins, on va dire en moins malicieux et en moins transgressif, si je puis dire. Mais il y a ce petit esprit, il y a cette espèce de candeur, Amblin, très amblinienne.
La marque Amblin permet aussi un peu ce ton-là.
Rappeler Amblin, c'est les productions Steven Spielberg.
Tout à fait. Ouais.
Donc bonne surprise.
Ok, ouais. Très bien. Bon, Julien, allez, vas-y.
Bon moi je n'ai pas à être vraiment d'accord avec Ilan.
Non, c'est pas possible. Ah, le twist.
Oh là là.
Ah, voilà, moi je suis comme ça de but en blanc.
Ouais, mais t'as raison, vas-y.
Je pensais que ça allait être intéressant de voir ce qu'un cinéaste comme Eli Roth, très connoté cinéma d'horreur, transgressif, violent, peut faire dans un contexte de film justement qui est vendu pour les enfants. Mm-hmm. Et mis à part quelques petits éléments un peu effrayants qui justement ont fait bondir les gamins à ma séance.
C'est peut-être là d'ailleurs où il prend un peu plus de plaisir finalement, non ?
Voilà, mais là où on peut sentir un peu sa patte, entre guillemets,
style, ouais.
Mais je trouve qu'il s'efface vraiment totalement derrière le projet qui est pour moi très formaté, très lisse. Et où en fait ça aurait pu être un autre réalisateur.
Ouais, mais Eli Roth le reconnaît en interview.
Oui,
il dit
oui, bien sûr.
Voilà, je sais parfaitement, je suis parfaitement conscient de ce que je réalise, de ce que j'ai entre les mains, et ça m'a permis justement de balayer mon style. Enfin,
ce qui est dommage, c'est que le film en fait est très verbeux. Et moi, ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est que le film s'adresse à des enfants, mais ne fait que expliquer par les dialogues sans cesse ce qu'on on vient de voir dans le film, dans la scène qui venait d'avoir ou une autre scène. Et moi, en tant qu'adulte, franchement, j'ai trouvé ça lourd. Hein.
T'es un adulte, toi? C'est vrai que t'as un peu de pilosité, c'est vrai.
Donc, voilà, je suis un grand garçon. Moi c'est vraiment que c'est ce que je lui reproche un peu, c'est vraiment d'être un film pour gamins qui laisse pas beaucoup d'entrée pour les adultes. Et donc film pour enfants, donc je pense qu'ils vont y prendre du plaisir, c'est bien tout ça, mais pour les adultes c'est un peu dur.
C'est un peu dur. D'accord. Pierre.
Eh bien moi, je sais pas si c'est parce que j'ai fait un bisou à Ilan au dernier podcast, mais il y a comme une connexion entre nous maintenant. Et c'est pareil, j'ai trouvé ça très chouette, moi.
C'est vrai ?
Ouais, carrément.
Surprise, c'est génial.
Donc le film n'est pas sans défaut. Hein. Il y a des soucis. Effectivement, c'est très verbeux. Moi, j'ai même trouvé carrément trop long. Je pense qu'il fallait couper. Il y a des scènes, il y a un vrai ventre mou à un moment pendant le film. Je vais aussi, avant d'oublier, dire que je trouve la musique est extrêmement faible. Je la trouve
il n'y a pas d'identité, quoi.
Voilà, sans identité, extrêmement démonstrative. Et c'est vrai que d'ailleurs le film a ce côté un peu, on paraphrase l'image en réexpliquant avec les dialogues, comme si on s'adressait à un très très jeune public. Et en même temps, je suis vraiment d'accord avec Ilan, je trouve qu'il prend pas non plus les enfants pour des imbéciles. Il leur sert pas toutes ces espèces de blagounettes à la con qu'on se tape à tous les films jeunes publics depuis quelques années. Je trouve plus racé, plus élégant que beaucoup de films pour enfants qui sortent récemment. Et ça m'a même rappelé des films pour enfants qu'on avait un peu quand nous on était plus jeunes ou adolescents, mais Babe, Mathilda, tu vois, c'est des choses qui n'étaient pas idiotes non plus.
Babe de George Miller, rappelons-le.
Babe de George Miller, évidemment.
Le deuxième.
Ce qui m'a interpellé dans les réactions du public, c'est qu'on le compare beaucoup à Harry Potter. Et évidemment, c'est normal. Je pense même qu'il y a une inspiration visuelle et des emprunts clairs chez Harry Potter. Après, je sais pas si tu l'as dit, je me rappelle pas, mais à l'origine c'est un roman.
Non, j'avais pas.
Un roman de John Bellair, je crois que c'est ça son nom. C'est sorti en 1973, donc c'est quand même plusieurs décennies avant Harry Potter.
Ah ouais, on est en 2018.
La première parution d'Harry Potter en Angleterre, je crois que c'était 1997. Donc du coup on est des décennies avant, ça se passe dans les années 50 et il est écrit en 73, enfin paru en 73, donc il est possible qu'il y ait quelque chose, une dimension chez l'auteur très personnelle, sans doute sa jeunesse, dans l'âge jeune garçon dans les années 50, je sais pas quelle était la vie de cet auteur. Par contre c'est certain que du point de vue d'Eli Roth, j'ai pas vu, perçu d'un point de vue très personnel, il s'efface, il se met à la hauteur de son sujet. Et en même temps, c'est ça qui m'a plu. Je trouve qu'il y a une bonne humeur et un plaisir enfantin communicatif. Je trouve que les acteurs Jack Black et Kate Blanchett, qui sont vraiment très très chouettes d'ailleurs, s'amusent et ça se sent. Et Eli Roth aussi, je trouve que ça se sent qu'il joue. Et d'ailleurs, il y a énormément, ça fourmille de détails dans les décors. Alors c'est pas un gros budget hein, c'est 40-41 millions de dollars. C'est pas comme Harry Potter qui est le premier, qui a des décors absolument exceptionnels et qui fourmillent de détails.
Non mais c'est vrai que la direction artistique n'est pas dégueulasse.
Dans la direction artistique, il y a des belles choses.
Le manoir est pas mal. Hein.
Voilà, alors quand c'est des CGI, des effets spéciaux, les citrouilles, tout ça, c'est des fois un peu moche. Il y a une scène avec une version bébé d'un des personnages, c'est carrément dégueu. Mais malgré ça, il y a quelque chose dans l'image de chouette, et même dans les couleurs, dans les costumes. J'ai passé un bon moment.
Ouais, il y a une bonne humeur communicative, et le fait qu'on retrouve pas tellement Eli Roth, enfin, qui s'efface derrière le sujet, je trouve que c'est pas une mauvaise chose, parce que moi, je commence à avoir un problème avec Eli Roth. Je savais pas trop où est-ce qu'il se situait. C'est-à-dire, est-ce que c'était un vrai réac de chez Réac quand on voit le sujet de ces derniers films et comment il les traite, ou est-ce que c'est un beauf qui s'assumait pas, ou des choses comme ça. Enfin, je commence à avoir un problème avec le mec, même si je le trouve extrêmement sympathique, mais je commence à avoir un problème avec ce type, et je trouve que justement le voir sortir de sa zone de confort et dire bah voilà, je ne vais pas utiliser les mêmes codes, je ne vais pas faire du Eli Roth, et je vais pas refaire du film d'exploitation années 70 je trouvais ça assez culotté, et je trouve que il prend quand même un certain plaisir à le faire. Il suffit juste de le voir, il fait un petit caméo dans le film d'ailleurs.
Oui, c'est vrai, qui est amusant.
Alors,
le petit caméo assez chouette. Hein. Ouais.
Mais le film voilà, n'est absolument pas exempt de défauts. Il s'adresse à des enfants, ça faut jamais l'oublier. C'est avant tout un film pour enfants qui ne laisse pas vraiment de porte d'entrée pour les adultes, mais moi ça ne m'a absolument pas dérangé, parce que je savais exactement ce que j'allais voir. Il suffit de voir l'affiche, de voir la bande-annonce pour savoir que voilà, on va pas voir des Switch justement.
Mais tu vois, alors...
Oui, Pierre.
Je suis d'accord avec toi, c'est un film pour les enfants, c'est même pas juste les enfants, je pense que c'est pour un très jeune public, mais c'est aussi un récit sur l'enfance. Donc je pense que beaucoup d'adultes, enfin moi en tout cas, je me suis projeté, beaucoup d'adultes peuvent se projeter. Ça parle de un enfant, il parle de sa série fétiche, qui était aussi la série fétiche d'un autre personnage. Il y a cette découverte, par exemple, moi j'aime beaucoup, alors là, je dis il y a un ventre mou, il y a des longueurs, j'aime beaucoup la première partie, même si la mise en place est parfois un peu longue, la découverte du manoir, des éléments un peu fantastiques qui disparaissent dès qu'ils tournent le dos, etc. Jack Black qui est assez mystérieux, ça fonctionne vachement bien. Le début, moi en tout cas, j'ai été pris tout de suite.
Bah alors Julien fait la tronche.
non, mais je fais pas la tronche du tout. Non, mais c'est marrant parce que moi, j'ai pas vraiment ressenti ça. J'ai trouvé ça vraiment trop formaté dans le style de production Amblin ou en tout cas post Harry Potter. Quoi. Ouais. Et par exemple, moi, je trouvais que le récit avait un problème avec les personnages, de la manière dont il introduisait les personnages, notamment le méchant qui est joué par Kyle MacLachlan.
Dell Cooper, c'est bon.
Dell Cooper, voilà, merci Ilan.
Twin Peaks, rappelons, voilà.
Et où en fait, voilà, bah tout son personnage est expliqué par les dialogues au lieu de nous.
Eh bien, je suis pas d'accord.
Mais tu as le droit de ne pas être d'accord.
Je m'insurge.
J'ai le droit de dire aussi ce que je pense, monsieur. Non, donc voilà, c'est le personnage. On nous explique tout le personnage avant qu'il apparaisse par des montagnes de dialogues, et finalement, on se dit, mais ce personnage, j'aurais voulu le voir avant. J'aurais voulu voir sa transformation. Ça aurait été intéressant. Mais tout est ellipsé, tout est surligné avec des dialogues. Et ce qui fait, je trouve qu'on s'attache vraiment pas aux personnages, comme il y a les personnages dans les d'enfants à l'école qui sont vraiment très passables et qui ont aucune chair, et qui sont vraiment des caricatures, et ça aide pas en fait. Et je trouve que ça aide pas à installer le personnage principal de l'enfant qui aurait pu être très intéressant, mais qui, je trouve, reste un peu sur des rails de ses fonctions de héros de films fantastiques pour enfants.
Mais alors, effectivement, les parties avec ses camarades de classe, c'est pas la meilleure. Les enfants sont pas tous géniaux. Par contre, je trouve que l'acteur principal, le jeune garçon, il est très bien. Ouais. Je trouve qu'il est très bien, il est touchant, il est bien dirigé. Et tu vois, l'introduction de Kyle MacLachlan en méchant, j'ai oublié le nom, Izzard. Je sais plus quoi, Izzard.
Izzard Hazard ou.
Beaucoup aimé son introduction.
C'est pas ça, non?
J'ai beaucoup aimé son introduction parce que justement, elle est très visuelle. Au contraire, il ouvre un livre et toute l'introduction se fait du personnage par des photos. photos. Et en fait, on voit les photos de ce personnage à travers les âges. Sa carrière de magicien quand il était plus jeune, il y a des super montages et aussi vidéos de Jack Black et Kyle MacLachlan rajeunis en magicien des années 50. T'as ces photos à la guerre, des espèces de portraits de Kyle MacLachlan, beau gosse, pareil, rajeuni. Et puis ensuite, t'as des petits souvenirs avec des croquis de créatures bizarres dans un manuscrit. Moi, j'ai trouvé que tous ces visuels-là étaient très intéressants et que justement, c'était pas si engourdi par des dialogues balourds.
Oui, je trouve, tu parles du manque de spontanéité du film, qu'il est sur des rails. Moi, je trouve au contraire, justement, qu'il est spontané parce qu'il est perfectible. Tous ces petits défauts que peut avoir le film participent à cette espèce de spontanéité, de candeur du film. Et de temps en temps, voilà, Universal nous sort des fois des petits films qui, en voulant être sur les rails, dévient des rails et deviennent des trucs un peu improbable. Je repense à un film que j'avais vu il y a des années qui était aussi produit par Universal, qui était un film pour young adult cette fois, qui s'appelait L'assistant du vampire, qui jouait aussi
avec John C. Reilly.
Voilà, avec John C. Reilly en vampire. Et moi, c'est un film qui m'avait amusé parce qu'en fait, ça, je vais être un peu vulgaire, mais ça pétait pas plus haut que son cul. Ça voulait pas faire du Twilight ou du Harry Potter. Ça s'adressait aux jeunes adultes.
Comme ça sur l'affiche du film. Ouais. Ne pète pas plus haut que son cul. Ilan Perry, cinéma.fr.
Mais avec une espèce de candeur, de spontanéité qui rendait le film touchant, et c'est ce que j'ai aussi retrouvé dans la prophétie de l'horloge. Mm-hmm. Cette espèce de spontanéité, de candeur assez attachante.
Mais bon, je pense que pour des gens, des enfants, si vous les amenez au cinéma, je pense qu'ils vont passer un super moment. Mm-hmm. Effectivement, c'est un peu long, ça fait un petit peu peur, mais pas trop. Et justement, c'est bien de les enfants, qui rencontrent un peu ces univers qui font un petit peu peur, un peu chair de poule, plutôt que des trucs Disney complètement aseptisés. Et surtout, voilà, ils vont passer un très bon moment. Par contre, pour les enfants, généralement, on va à des séances VF, et il faut l'avouer que la VF est assez épouvantable.
Oui, c'est vrai, je confirme.
Donc, et là, mine de rien, Julien qui ne l'a pas aimé, et Thomas, je crois que tu étais aussi assez mitigé. Alors, vous êtes les
enfin,
deux seuls.
Non, mais enfin, vous êtes les deux seuls. Mon avis, quoi.
Vous êtes les deux seuls à avoir vu en VF, et la VF, elle est horrible. Et pour moi, je pense qu'elle sabote une bonne partie du film. Hein.
Non, mais je vais enfin pouvoir dire ce que je pense du film, parce que là, je écoute ce que vous avez à dire, et je vais me ranger derrière Julien. Moi, j'ai pas vu ça avec une grande passion, à vrai dire.
Mais vous êtes les deux seuls à avoir vu en VF.
Coïncidence, oui, je ne crois pas.
Non, mais est-ce que c'est vraiment la VF qui a détruit
Jack Black en VF, excuse-moi, mais c'est l'enfer,
non,
quoi.
Bien sûr. Non, on perd énormément de choses en VF, ça c'est clair et net.
Ça c'est vrai.
Mais est-ce que le film a vraiment plus à offrir que ça, ce que moi j'ai vu? J'ai pas l'impression. Mais je reconnais que la VF n'a vraiment pas aidé.
Bon, bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hein.
Ouais, est-ce qu'on peut dire de ne jamais engager Julien Munoz comme babysitter?
Non, mais bon, tout le monde aura compris que j'ai perdu mon âme d'enfant.
Tu as perdu ton Peter Pan.
Je pense pas que tu l'aies déjà eu. Hein.
Bon, bah écoutez, là.
Il a jamais été enfant, il est né comme ça, direct.
Bon, on va quitter donc cet univers-là, quoique on n'est pas si éloigné finalement que ça de cet univers de la prophétie de l'horloge. On va s'intéresser à un autre orphelin.
Pas très connu
du tout.
Harry Le Potier.
Harry Le Potier, exactement, tout de suite.
C'était très intéressant, ça m'a permis de découvrir encore le film que j'ai pas vu autant de fois, mais que j'ai vu quand même 2-3 fois. C'est pas mon préféré, mais ça a quand même permis de découvrir pas mal de détails. Oui, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même du bon travail qui a été fait derrière pour l'adapter vraiment au cinéma, et on voit moins que c'est un vieux film en fait.
Je trouve qu'on voit beaucoup plus de détails au niveau des profondeurs de champ et des décors par exemple. On voyait beaucoup moins, par exemple dans la première scène en deux nuits, par exemple, là on voyait beaucoup plus de détails que j'avais pas vu alors que j'ai vu le film au moins 200 fois je crois.
Il y a plein d'aventures, j'aime bien la magie, j'étais mieux en salle.
J'attends la suite des Animaux Fantastiques qui va sortir bientôt. Je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça réaccroche un public à Harry Potter, sachant qu'il y avait vraiment les fans qui étaient derrière Harry Potter, mais ça s'oubliait un peu et je trouve que c'est quand même une bonne idée de relancer ça. C'est un peu différent, là on découvre un peu un autre univers, tout en restant dans Harry Potter en fait. J'ai converti ma famille à Harry Potter. Dans le sud, ils arrivent à choper des séances, je pense que je leur conseillerais d'aller les voir au cinéma.
Bon, vous l'avez entendu, les fans sont au rendez-vous. Des fans qui, pour la plupart de ceux qui se sont exprimés dans ce petit micro-trottoir, ont entre 16 et 18 ans. 18 ans, ça veut dire que quand le film est sorti en 2001, c'est soit ils étaient pas nés, soit ils avaient un an ou deux. Donc ils ont découvert Harry Potter. Ils ont découvert Harry Potter donc en vidéo.
hein, comme beaucoup. Et bah, ils ont plutôt apprécié cette redécouverte, remasterisée, 4K, sur grand écran. Moi, j'ai pris du plaisir, personnellement, parce que c'est une franchise que j'apprécie plutôt pas mal, en fait. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les copains ? Est-ce que vous aussi, vous avez pris du plaisir à redécouvrir ce film ? Hein, Pierre ?
Eh bien,
toi qui as tout lu, je sais que t'es un fan hardcore de la saga, mais en livre.
Oui, alors moi j'aime beaucoup les livres et d'ailleurs c'est l'instant où je me la pète, mais moi je suis un vrai hipster, genre j'aimais bien avant que ce soit cool. ma mère m'avait offert le premier Harry Potter et personne connaissait.
Spéciale dédicace maman. C'est,
genre la première, spéciale dédicace à ma maman. Et c'était la première édition française et je me rappelle dans la cour de récré, je disais putain, je suis en train de lire un truc, c'est trop bien, ça s'appelle Harry Potter, et tout le monde se foutait de ma gueule.
Le mec le lisait déjà en VO en plus.
Et tout. Ouais, voilà, je lisais en anglais, mais parce qu'à l'époque je passais mon bac et. Non mais je trouvais ça génial et je comprenais pas pourquoi les gens ne connaissaient pas du tout, et ça me paraissait génial. Et en fait donc c'est sorti donc en 2001 au cinéma, effectivement c'est assez vieux.
T'avais quel âge toi en 2001?
C'était il y a très longtemps.
C'était il y a très longtemps, d'accord, ok, je te laisse faire le calcul, vas-y.
Et en fait cette remasterisation, alors oula purée.
Oula, cette remasterisation, vas-y.
Et forcément bon. J'ai quasiment rien bu.
Pas encore.
Cette remasterisation, c'est quand même important de le dire que c'est une véritable remasterisation 4K.
Oui.
Parce que c'est pas si courant, d'habitude on a en fait des espèces de 2K boostés pour le cinéma. Là c'est une belle copie de travail, ils ont scanné la pellicule pour nous refaire une belle restauration vidéo. Et l'image, effectivement, on le voyait ça sur le Blu-ray 4K, l'image est très belle, ça fonctionne très bien. Alors ouais, c'est pas non plus la remasterisation du siècle, hein, c'est un film de 2001 déjà, c'est pas très vieux. Mais c'est vrai que ça fonctionne toujours bien sur grand écran. Et je rebondis sur un des commentaires qui disait qu'il voyait, il avait repéré plein de nouveaux détails. Et moi, c'est ça que j'apprécie.
Parce Calvin.
Voilà, c'est ça que j'apprécie dans les deux premiers, donc À l'école des sorciers et La chambre des secrets, qui sont les deux films réalisés par Chris Columbus, qui est issu de l'écurie Spielberg. En fait, en soi, ce sont des films que je trouve un peu infantilisants, qui sont plein de défauts dans la narration, les jeux d'acteurs, je trouve que les enfants jouent pas très bien, que même les acteurs adultes sont un peu en roue libre. Pour moi, il y a des problèmes dans la narration. Mais par contre, je trouve que visuellement, les films sont extrêmement beaux, vraiment enchanteurs. Bon, c'est aussi un très gros budget, hein, c'est une très grosse franchise pour Warner. Mais dans les décors, les costumes, c'est allé la Diagon Alley où il y a toutes les boutiques, les livres, après Poudlard. Alors effectivement, comme me disait une amie, le terrain, le parc, tout ça, c'était pas très bien exploité. C'est vraiment Alfonso Cuarón avec le troisième qui en a fait quelque chose, qui a amené du relief à ce
Azkaban.
Voilà. Prisonnier d'Azkaban qui a amené du relief à ce terrain. Mais je trouvais que visuellement, c'était extrêmement beau. Moi, j'adore la direction artistique, du moins pour les décors, les objets, etc., du premier. Et c'est un film qui fourmille de détails. Il y a toujours quelque chose à repérer. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à l'énorme artbook qui est sorti, qui compile tous les films. Et on voit le travail qui a été fait par les production designers, par les accessoiristes sur le premier et le deuxième film. C'est absolument démentiel. Tout ça, évidemment, soutenu par la magnifique composition de John Williams. C'est une de ses dernières vraiment belles compositions. Et au cinéma, oui, ça fait vraiment plaisir à voir.
Mais du coup, alors toi qui as lu les livres, est-ce que le premier film, tu retrouves cet univers?
Alors, visuellement, ils avaient fait...
Pour tous ceux qui ont construit leur fanatitude, j'ai envie de dire, d'Harry Potter sur les
grâce
films.
Au cinéma, mais je pense que beaucoup sont entrés. D'ailleurs, la porte d'entrée plus facile pour beaucoup, ça a été le premier film. Ils avaient pris pas mal de liberté sur le film. Et pourtant, ça fonctionnait très bien. Ils avaient abandonné les grandes capes, les chapeaux pointus, mais ça m'a pas dérangé quand je l'ai vu à l'époque. Je me suis pas senti trahi. Au contraire, je trouvais qu'il y avait un véritable amour. Il y avait des acteurs, parce que J.K. Rowling, quand elle a écrit les personnages, elle avait pas mal d'acteurs en tête, des acteurs qui ont été pour beaucoup repris dans les rôles principaux, notamment Hagrid, par exemple, Dumbledore, qui était joué par Feu Richard Harris, qui est un acteur que j'aimais beaucoup. Moi, je trouve qu'il y a une certaine, voilà, une véritable, c'est un gros produit de studio, mais je sens qu'il y a un vrai amour pour le matériau d'origine, et je trouve que ça fonctionne bien malgré les défauts. Moi, je peux comprendre qu'on puisse ne pas rentrer dans le premier film. C'est vrai que c'est un film qui est très enfant, qui est un peu niais.
Mais moi, j'aime beaucoup, moi.
Mais moi, voilà, je trouve qu'il y a une vraie magie qui s'en dégage.
Ilan,
allez, vas-y,
écoute, lance-toi.
Va passer après Pierre.
qui ne démérite
toi,
pas.
Toi, tu aimes bien cette franchise est-ce que t'as,
alors, moi, le Harry Potter, je l'ai découvert au cinéma, j'ai jamais lu les bouquins, contrairement à monsieur Maître Capello de Poulard, Pierre.
Voilà.
Poudlard, pas
Poudlard. Poudlard, oh, pardon, excusez-moi.
Poulard. Mais c'est la version.
J'aime bien franchiser.
Oui, la version Jean Lefebvre d'Harry Potter.
Jean Lefebvre,
l'école à Poulard.
Cinematic Universe. Et donc, oui, je l'ai découvert. Je l'ai découvert au cinéma. J'ai découvert la franchise au cinéma. Le premier, je l'avais vu avec ma petite sœur, d'ailleurs, qui maintenant est devenue fan de Xavier Dolan. Donc, je l'invite à revoir Harry Potter, à redevenir fan d'Harry Potter. Et oui, moi, à l'époque, j'avais bien aimé, mais je l'ai plus vu par le prisme de ma petite sœur. J'avais trouvé ça
par le prisme de la bière.
Voilà, c'est ça.
J'avais bien aimé.
Non, mais plus en fonction de ma petite sœur. J'ai trouvé que pour son âge, j'avais 8 ans à l'époque. J'avais trouvé ça vraiment, vraiment pas mal. Je l'ai redécouvert. Effectivement, j'ai revu des choses qui m'avaient pas spécialement interpellé à l'époque, qui m'a pas spécialement touché. Je trouve qu'effectivement, ça fonctionne toujours aussi bien, et le fait qu'il ait eu un petit coup de polish comme ça, c'est une bonne chose.
À l'occasion, je mettrai un petit coup de polish.
C'est mon petit côté OSS 117. Donc je trouve que c'est pas une mauvaise chose, et surtout à quelques semaines de la sortie des Animaux Fantastiques.
Bah oui, c'est ça.
C'est bien d'avoir un petit update.
Bon, tu le conseilles?
Oui, je conseille de le voir ou de le revoir. Oui.
Très bien. Et je rajoute une dernière chose avant de laisser la parole au serpentard de la critique autour de cette table, Julien Munoz. C'est que dans le tout premier, spoiler alert, si vous ne l'avez pas vu, il y a un aperçu de Voldemort. Et à l'époque, Voldemort, donc il était entièrement en image de synthèse, et il avait vraiment ce visage reptilien qui était décrit plus ou moins. Bon, c'était pas non plus en termes de direction artistique, son visage, c'était pas ce qui se faisait de mieux, hein. Mais c'était quand même autre chose que Ralph Fiennes, qui est pourtant un acteur que j'aime beaucoup, mais qui avait un peu un maquillage de poisson, faut dire ce qu'il y a, dans les suites. Et voilà, au moins je trouvais que c'était un petit peu plus fidèle sur ce point de vue, et c'est quand même le grand méchant de la saga.
Allez, Julien, vas-y.
Voilà.
Je sais que t'adores Harry Potter.
J'ai pas découvert la franchise au cinéma parce qu'en fait.
J'ai jamais vu. De quoi parle-t-on?
Non, parce qu'en fait, le premier, je l'ai pas vu au cinéma parce qu'à l'époque, bon, alors moi j'avais 18 ans, voilà, moi j'ose dire mon âge, monsieur. Il y avait un film en fin d'année qui retenait toute mon attention qui s'appelait Le Seigneur des Anneaux. Un petit film qui a pas trop marché, tu vois. Donc en fait, j'en avais un peu rien à faire de ce film qu'on me vendait d'issue de bouquins très populaires que je n'avais pas lu. Et que je n'ai pas vraiment lu. Enfin, j'ai lu en diagonale le premier pour voir en fait quel était le travail d'adaptation sur l'école des sorciers. Et
tu peux le dire, hein, s'il y avait eu Kurt Russell, t'y serais allé.
S'il y avait Kurt Russell, j'y serais allé.
Ouais. Et des boucles d'oreilles.
Où j'en étais. J'ai découvert le film en vidéo, et moi je me suis ennuyé profondément. Je trouve que c'est un film, le premier, qui n'a aucun rythme. C'est interminable.
Oh là là.
Et donc j'ai fait l'effort d'aller le revoir en salle, hein, et je me suis encore fait plus chier. Je suis désolé, hein, c'est.
Oh là là. Non, et là tu vois, à ce moment-là, je pense à Maël, 8 ans, qui me disait: il a plein d'aventures, j'aime bien la magie.
Julien, il n'aime pas la magie, il y croit pas, ça n'existe pas.
T'as définitivement perdu ton Peter Pan, toi, c'est pas possible.
Harry Potter, je critique pas trop, parce qu'en fait je suis allé jusqu'au bout du 3e difficilement. Quaron, j'ai dû le regarder en deux parties, parce que la première partie, je n'en pouvais plus, je m'ennuyais, mais c'était infernal. Non, mais c'est un univers, moi, qui ne m'accroche pas. Donc en fait, je me sens pas légitime pour critiquer cette franchise, parce que c'est vraiment, je pense que c'est une franchise qui n'est vraiment pas faite pour moi, qui n'a pas d'argument en fait pour me dire viens.
Qui te fait pas voyager, qui te fait
moi,
pas.
Moi, ça me fait pas rêver. Mais c'est comme ça, c'est personnel. Hein,
oui,
c'est,
non, bah,
je veux dire, je ne juge pas ceux qui adorent aller Harry Potter. Hein, il y en a trois autour de moi.
Doucement, remettons les choses dans leur contexte.
Adorer, non. Apprécier, oui.
J'apprécie les deux premiers visuellement. Le troisième, Quaron, il y a des choses. Et puis après, je trouve que ça devient vraiment problématique. Donc, attention.
Non, mais voilà, moi, j'ai pas d'accroche.
Après, on voit plus rien. Il fait tout noir dans
les films. C'est tout gris. Ouais, c'est des films tout gris. Hein.
Non, moi, j'ai pas d'accroche. Donc, c'est vraiment un univers que ça ne fonctionne pas. Je n'adhère pas. Donc, voilà, c'est comme ça. C'est vraiment un avis personnel. Et je ne peux pas juger la franchise. Je veux dire, Harry Potter, c'est pas les Twilight, quoi. Twilight, c'est de l'anti-cinéma total.
Ah, tu le mets au même niveau, toi.
Non, il dit justement.
Pardon.
Twilight, justement, tu vois, c'est de l'anti-cinéma total. final, c'est, je veux dire, là, je peux critiquer parce que c'est, j'adore les films de vampires. Et là, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, j'aime l'heroic fantasy, j'aime la fantasy en général, mais là, je sais que je perçois que c'est un univers qui ne s'adresse pas à moi. C'est des bouquins qui ne sont pas faits pour moi parce que à l'époque, je pense que j'étais déjà trop vieux. Et voilà, et il y avait Le Seigneur des Anneaux et c'est vachement mieux.
C'est QFD quoi. Ok, très bien.
Julien est plus Inspecteur Harry qu'Harry Potter.
Ah, oh, oh là là.
Et... Non mais j'y réfléchis, tu vois, pendant tout le podcast.
Ok, très bien, très bien.
Ah, mais s'il avait une baguette magique au lieu d'un colt...
Un gros flingue,
voilà, ça, pour moi ça aurait marché quoi.
Les animaux fantastiques, les copains, donc du coup, bah, Julien, je pense qu'on va s'arrêter là. Bah,
j'ai fait la passe sur le premier, donc je pense que je vais faire la passe sur le deuxième. Hein.
C'est ça qu'il faut dire, c'est que le film sort en version remasterisée, restaurée 4K au cinéma, etc. pour les 20 ans de la franchise. Sauf que, attention, subtilité, ce n'est pas véritablement les 20 ans. En fait, ils le sortent plus tôt. C'est aussi une belle opération marketing commerciale parce que le Blu-ray sort effectivement et parce que Les Animaux Fantastiques 2 sort au cinéma très prochainement cet hiver. Donc du coup, voilà, c'était l'occasion de remettre un petit paquet.
Qu'est-ce que t'as pensé, toi, des Animaux Fantastiques 1 bah alors, moi, t'allais le voir ensemble, mais j'aimerais bien que t'entendre.
Alors, mais moi, j'ai pas véritablement apprécié les animaux. Bon, déjà, j'ai décroché la franchise Harry Potter à partir du numéro 4 au cinéma. Les Animaux Fantastiques, j'ai pas tellement aimé. J'ai trouvé qu'il y avait quelques, dans la direction artistique, il y avait des choses très sympas chez les animaux. Il y avait aussi ce coup du il rentre dans son sac, etc. Je trouvais ça très bien. Après, j'ai pas du tout accroché l'univers. Surtout que je vais me la répéter encore, le fan. Mais à l'époque, donc le héros des Animaux Fantastiques, Newt Scamander, ce zoologue de l'univers Harry Potter qui va voilà trouver toutes les créatures fantastiques du monde pour
qui va être à l'origine justement du manuel qui va être voilà, enseigné
pour faire une grande encyclopédie. Voilà. Ce qu'on te teasait dans les romans et ce qu'on te teasait aussi dans un tout petit livre qui était sorti dans le commerce, un tout petit dictionnaire des animaux fantastiques, c'est qu'il avait parcouru la terre entière. Il est allé dans la jungle d'Amazonie, au fin fond des pyramides, il est allé en Chine, il était allé au pôle Nord, en Scandinavie, au fin fond de la Russie, etc., pour trouver les créatures les plus rares et les plus bizarres. Et je me disais, oh là là, mais on va avoir un truc d'aventure absolument dément. Et crac, on est dans les rues new-yorkaises en pleine prohibition. Donc je trouvais que ça me parlait pas. Pour moi, c'était une vraie tentative de simplement séduire le public américain. J'y voyais aucun intérêt visuel ou même pour la franchise Harry Potter. En plus, on t'explique que. Enfin, je trouvais que c'était pas cohérent par rapport à l'univers des sorciers, même si J.K. Rowling a été impliqué, mais pour moi, ça marchait pas. C'est-à-dire que les sorciers, ils vivent encore plus ou moins dans le passé. Il y a une esthétique moyenâgeuse ou renaissance. Et là, transposition aux États-Unis, crac. Pourquoi les sorciers se mettent à adopter la mode américaine locale avec le jazz, avec les clubs genre underground, parce que c'est la prohibition. Enfin, je trouvais que ça n'a aucun intérêt, à part simplement de la gratuité visuelle, parce qu'ils se sont amusés à faire ça. Les gobelins, qui sont une espèce de race millénaire, qui se mettent à voilà.
Donc t'as pas donc, hâte donc, de
non. Je trouvais que Johnny Depp, c'était vraiment un problème de casting, tu vois.
Ouais,
au début, c'était Colin Farrell, et puis en fait, on se rend compte que finalement, c'est Johnny Depp. Je trouvais que c'était un véritable problème. Pour moi, ça fonctionnait pas. Et il y a des choses qui me font très peur en plus dans cette suite, c'est qu'il y a une partie qui se passe à Paris.
Oui. Qui n'a pas été tournée à Paris.
Qui n'a pas été véritablement tournée à Paris, mais je crois que si je dis pas de bêtises, il y a des acteurs français au cast.
Ah, je sais pas.
Et j'ai peur que ça fasse très mal.
Aïe.
Ilan ? Ouais, Ilan.
Qu'est-ce que tu as hâte ? Est-ce que tu as apprécié le premier film ?
Alors, le premier film, c'est. Le problème, c'est que j'y allais un peu. Enfin, j'y suis allé un peu à reculons parce que je m'attendais à avoir une version live de Pokémon à la sauce Harry Potter.
Ça aurait pas été si mal.
Ça aurait eu de la gueule. Après, c'est pas un film qui m'a déplu ou plu. C'est un film qui m'a laissé totalement hermétique. J'ai pas été particulièrement séduit. J'ai pas été rebuté par le truc. C'est juste une espèce de spin-off. Voilà, fait pour les fans.
Visuellement assez dégueulasse aussi.
Ouais, c'est un fan film de luxe, mais
assez gris aussi.
Pas mémorable. Donc le 2, j'en ai aucune attente particulière parce que. En plus, je crains le gros numéro de cabotinage de Johnny Depp.
Oh là là, ouais. Et la bande-annonce s'est flippée.
Ça me fait un peu peur. Donc c'est pas le premier film que j'irai voir. Le premier jour de sa sortie, quoi.
Mais après, la franchise Harry Potter, c'est pour ça que ça nous intéressait de le remettre en perspective aussi, parce qu'il sort en même temps que La Prophétie de l'Horloge. Et d'ailleurs, c'est pas innocent. Hein.
Bah oui, t'as vu les réactions des spectateurs.
Oui, hein. Bien sûr. Voilà. Bon. Mais la franchise Harry Potter, mine de rien, c'est devenu un peu le référent, le maître étalon aujourd'hui pour ce qui est du film jeune public, un peu fantasy. et ça a instauré des codes donc qui, enfin, je pense que ça va être dur de s'en détacher avec les années, tu vois.
Ils ont prévu combien de films? Ils en ont prévu, je crois, quand le premier est sorti, J.K. Rowling, ils avaient fait une super opération communication, elle avait annoncé 5 films, il me semble. 5 films, ouais, les Animaux Fantastiques. Ouais, c'est démentiel.
Et puis c'est une production, une énorme production pour le studio Warner, qui est aussi un petit peu en mal de franchise, puisque leur franchise DC, ça se porte pas très bien. Ils n'ont plus forcément grand chose. Harry Potter en soi, c'est clos, donc ils essaient de sortir des spin-offs. Il y a la pièce à Broadway, donc on n'est pas non plus à l'abri de, une fois la, je sais pas combien il y aura de films, mettons la trilogie Animaux Fantastiques terminée, qu'on reparte pas encore dans autre chose, voire une série télé, étant donné Disney va lancer donc ses séries Star Wars, etc. Et d'ailleurs, moi, alors ça c'est un
Warner va lancer sa plateforme de vidéo de VOD, je crois,
vidéo on demand. Et du coup, moi, c'est une chose que j'avais toujours appelée de mes voeux, parce que je trouvais ça sympa d'avoir Harry Potter au cinéma, parce que on a des gros moyens, on avait John Williams, c'est cool d'aller voir un film au cinéma. Par contre, je trouvais que c'était un univers qui se prêtait vraiment bien la série télé, sauf qu'il est sorti il y a beaucoup trop longtemps. Mais en fait, il y avait 7 bouquins, t'aurais pu faire 7 saisons. En une saison, t'avais largement de quoi explorer un tome dans son intégralité, avec tous les détails qui malheureusement ont dû être sacrifiés pour des films qui font 2 heures. Je trouve qu'en série télé, ça aurait pu très bien exister, et c'est pas impossible qu'un jour on ait un reboot série télé, comme il y aura un reboot série télé du Seigneur des Anneaux chez Amazon.
Julien, tu es bien silencieux, on va te donner le mot de la fin.
Donne-moi un terme de Harry Potter là, parce que
non, débrouille-toi tout seul, t'aimes pas.
Putain, mais, non, non. Mais moi j'adhère pas.
T'es un moldu.
J'accroche à rien, et c'est vrai que je suis incapable de te donner un terme du film, quoi. C'est incroyable, quoi.
Non, un craque-mou, c'est pas... les sorciers qui ont perdu leur magie.
Ah oui, exact.
Ou un truc comme ça, non, je sais plus ce que c'est le mot.
Ouais, non, croque-mou, c'est dans Dragon, c'est pas pareil. N'importe quoi.
Non, je voudrais juste dire que je n'apprécie pas la BO de John Williams de Harry Potter.
Oh, t'es sérieux?
Même ça, je n'accroche pas. C'est une de ses BO les plus faibles.
Attends, c'est quoi ton film jeune public, film, hein, pas série, pas dessin animé, ton film jeune public préféré?
Full Metal Jacket.
ouais, voilà. Non, mais en grand public, par exemple, il y avait Stardust de Matthew Vaughn qui était vachement bien.
Ok.
Et là que j'avais retrouvé mon âme d'enfant.
Stardust, pas du tout pour les enfants, c'est pour les adolescentes. C'est chouette.
Un petit cœur d'adolescente qui bat. Voilà, c'est comme ça.
Ok. Allez. Bah écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les amis, les fans. Allez-y. Harry Potter est en salle. Surveillez vos cinémas. Pâté et Gaumont, parce qu'il y a un petit cycle qui est organisé. Il n'y a pas que le premier qui est diffusé. Pas toute la franchise, mais quelques-uns des films de la franchise sont diffusés. Donc allez-y. Merci à Aurélie, Wilfried, Mélanie, Tiffany, Dorothée, Calvin, Megan et Maël de nous avoir accordé quelques instants en sortie de salle pour nous donner leurs impressions sur les films dont on a parlé aujourd'hui. N'hésitez pas à aller les voir, à commenter, à nous laisser un petit commentaire sous le fichier du podcast, parce que la discussion se poursuit sur les réseaux sociaux. Vous nous retrouvez également sur séanceradio.com, iTunes, Spotify et SoundCloud. Spotify, les copains, Spotify, ça c'est du lourd quand même, on est très très contents. Vous tapez fin de séance dans Spotify, on est là, on est présent. N'hésitez pas à partager, commenter, liker, des petites étoiles, tout ça, bon, vous savez faire. Ilan et Julien, merci les gars.
Merci.
Merci à toi.
On vous retrouve très vite, et vous êtes également présents sur cinevibe.fr et sur Twitter
@cinevibefr.
Voilà, tout est dit. Pierre, à très vite.
Ah oui, à très vite, je vais essayer de réfléchir avec un peu plus d'efficacité cette fois. Pardon pour cette espèce de blanc que j'ai eu au début.
Un petit bug, mais ça arrive.
Ah, c'est pas du tout dû à l'alcool.
C'est les aléas du direct.
C'est la vieillesse.
On te retrouve sur fanfootage.fr.
Si.
Et sur Twitter, @fanfootage.fr, on peut nous lire exactement. Et sur Twitter également, notre compte pour l'émission, @fin2_séance, @fin2_séance. Vous tapez carrément #fin de séance sur Twitter, c'est très très facile pour nous retrouver. On vous fait de très gros bisous.
Bisous, bisous.
Bisous. Bon cinéma et à très vite.
À plus.
Salut.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.